been having dreams, splashing in the summer stream, tripping, I fall in. I wanted it to happen. Body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel right. Radio G 101.5 FM.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
J'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Il ne faisait pas bon être une femme dans certains milieux au 19e siècle. Car à vous, si vous n'acceptiez pas d'endosser le rôle de la femme soumise, se contentant de son petit univers familial et ménager. Si les femmes se mettent à penser, à vouloir s'exprimer, se déplacer, en un mot, être libres comme les hommes, où va-t-on ? Heureusement que la loi autorise le père de famille, ou même le frère, à demander l'internement de ces femmes bien dérangeantes. C'est ce que la jeune Eugénie Cléry va apprendre à ses dépens. Eugénie est internée contre sa volonté à l'hôpital de la Salpêtrière, où le professeur Charcot, éminent neurologue, expérimente de nouvelles thérapeutiques pour soigner les troubles mentaux de ses patientes. Il organise des séances d'hypnose publique pour traiter l'hystérie. Et chaque année, à la mi-carême, la Salpêtrière ouvre ses portes au tout Paris pour le très couru Bal des Folles. C'est le sujet de ce livre écrit par Victoria Mas en 2019 et publié chez Albin Michel. Geneviève, assistante du professeur Charcot, va nouer une relation particulière avec Eugénie.
La nuit est tombée sur la rue Soufflot. Le Panthéon, berceau d'illustres noms honorés au sein d'une pierre épaisse, veille en hauteur sur le jardin du Luxembourg, endormi en bas de la rue. Au sixième étage d'un immeuble, une fenêtre est ouverte. Geneviève observe la rue calme, délimitée à sa gauche par la silhouette solennelle du monument aux grands hommes. À sa droite, par le jardin aux statues où promeneurs, amants et enfants viennent dès le matin longer les allées verdoyantes et les pelouses en fleurs. Rentrée du service en début de soirée, Geneviève a suivi son rituel quotidien. D'abord, elle a déboutonné sa blouse blanche, a vérifié machinalement si celle-ci ne présentait pas de taches, du sang le plus souvent, avant de l'accrocher à une petite armoire, puis a effectué sa toilette sur le palier où elle croise parfois les autres habitants du même étage, une mère et sa fille de 15 ans, toutes deux blanchisseuses, seule depuis la mort du mari pendant la commune. Rentrée dans son studio modeste, elle a réchauffé un potage qu'elle a avalé sans bruit, assise sur le rebord du lit simple, éclairé par une lampe à huile. Puis, elle est venue s'attarder 10 minutes à la fenêtre, comme chaque soir. Maintenant, immobile et droite comme si elle portait encore son étroite blouse de service, elle observe la rue en hauteur, aussi imperturbable qu'un guetteur en haut de son phare. Ce n'est pas par contemplation face aux lumières de la rue, ni par rêverie. Elle n'a pas ce romantisme-là. Elle use seulement de ce moment de paix pour enterrer sa journée passée entre les murs hospitaliers. Elle ouvre la fenêtre et laisse s'échapper dans le vent tout ce qui l'accompagne du matin au soir. Les mines tristes et ironiques, les parfums d'éther et de chloroforme, les claquements de talons contre le carrelage, les échos des plaintes et des gémissements, le grincement des lits sous les corps agités. Elle se distancie du lieu seulement. Elle ne songe pas aux aliénés. Celle-ci ne l'intéresse pas. Aucun sort ne l'émeut. Aucune histoire ne la trouble. Depuis l'incident à ses débuts d'infirmière, elle a renoncé à voir les femmes derrière les patientes. Souvent, le souvenir lui revient. Elle revoit la crise montée chez cette internée qui ressemblait à sa sœur. Son visage transformé, ses deux mains attrapant son cou et le serrant avec un acharnement de damnée. Geneviève était jeune. Elle pensait que pour aider, il lui fallait s'attacher. Deux infirmières étaient intervenues pour la libérer des mains de celle en qui elle avait placé sa confiance et son empathie. Le choc fut une leçon. Les 20 années suivantes passées auprès d'aliénés continuèrent à valider son sentiment. La maladie déshumanise. Elle fait de ces femmes des marionnettes à la merci de symptômes grotesques, des poupées molles entre les mains des médecins qui les manipulent et les examinent sous tous les plis de leur peau, des bêtes curieuses qui ne suscitent qu'un intérêt clinique. Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes. Elles ne sont pas des femmes qu'on regarde ou qu'on considère. Elles ne seront jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime. Elles sont des malades, des folles, des ratées. Et son travail consiste au mieux à les soigner, au pire à les maintenir internées dans des conditions décentes. Geneviève referme la fenêtre, saisit sa lampe à huile et s'assoit face à sa console en bois sur laquelle elle dépose la lampe. Dans cette chambre où elle vit depuis son arrivée à Paris, le seul luxe qu'on trouve est un poêle qui réchauffe doucement la pièce. Rien n'a changé depuis 20 ans. Aux quatre coins, c'est le même lit simple, la même armoire enfermant deux robes de ville et une robe de chambre, la même cuisinière à charbon et la même console avec chaise qui constitue son petit espace d'écriture. Une tapisserie rose que le temps a jaunie et l'humidité gonflée par endroits offre les seules couleurs de la pièce, autrement meublée de bois sombre. Le plafond, voûté, fait machinalement baisser la tête par endroits lorsqu'elle se déplace. Elle saisit une feuille, trempe sa plume dans l'encrier et commence à écrire. Paris, le 3 mars 1885. Ma chère sœur, voici quelques jours que je n'ai pas écrit. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Les aliénés étaient particulièrement agités cette semaine. Il suffit qu'une seule entre en crise pour que les autres suivent. La fin de l'hiver leur fait souvent cet effet-là. Le ciel de plomb au-dessus de nos têtes des mois durant, le dortoir glacé que les poêles ne parviennent pas à chauffer convenablement, sans parler des affections hivernales. Tout ceci atteint sévèrement leur esprit, tu t'en doutes. Heureusement, nous avons eu les premiers rayons de soleil de la saison aujourd'hui. Et avec le bal de la mi-carême qui arrive dans 2 semaines, oui, déjà, cela devrait les calmer. D'ailleurs, nous allons très bientôt ressortir les costumes de l'an dernier. Cela ravivera un peu leur humeur et celle des internes par la même occasion. Le docteur Charcot a donné un nouveau cours public aujourd'hui. La petite Louise, cette fois encore. La pauvre folle s'imagine déjà avoir le même succès qu'Augustine. Je devrais lui rappeler que cette dernière a tellement joui de son succès qu'elle a fini par s'enfuir de l'hôpital, dans des vêtements d'homme, qui plus est. Elle a été bien ingrate. Après tout ce que nous, et surtout le docteur Charcot, avons fait comme effort pour la soigner. Une aliénée l'est à vie, je te l'ai toujours dit. Mais la séance s'est bien déroulée. Charcot et Babinski ont pu recréer une belle crise. Le public était satisfait. L'auditorium était rempli comme chaque vendredi. Le docteur Charcot mérite son succès. Je n'ose imaginer les découvertes qu'il fera encore. Chaque fois, cela me ramène à moi. Petite auvergnate, simple fille de médecin de campagne, et qui aujourd'hui assiste le plus grand neurologue de Paris. Je te le confie, cette pensée gonfle mon cœur de fierté et d'humilité. La date de ton anniversaire approche. Je tâche de ne pas y penser. Cela me donne trop de chagrin. Encore ce jour, oui. Tu dois me trouver sotte, mais les années n'y font rien. Tu me manqueras toute ma vie. Ma tendre Blandine, il me faut aller dormir. Je te serre dans mes bras et t'embrasse affectueusement. Ta sœur, qui pense à toi, où que tu sois. Geneviève relit la lettre avant de la plier. Elle l'insère dans une enveloppe sur laquelle elle annote en haut à droite 3 mars 1885. Elle se lève et ouvre les portes de l'armoire. Plusieurs boîtes rectangulaires sont rangées au pied des robes qui pendent. Geneviève saisit la boîte au-dessus des autres. À l'intérieur, une centaine d'enveloppes datées en haut à droite, comme celle qu'elle tient en main. De son index, elle examine la date de l'enveloppe en tête de file. 20 février 1885 et insère la nouvelle enveloppe dans celle-ci. Elle repose le couvercle sur la boîte et la remet à sa place et referme les portes de l'armoire.
Eugénie, jeune fille de 17 ans, a noué une forte relation avec sa grand-mère dans une famille très conventionnelle de la bourgeoisie catholique. Son caractère indépendant déplaît à ses parents, seule sa grand-mère dont elle s'occupe quotidiennement semble l'approuver. Le sentiment de confiance que Eugénie ressent pour son aïeule la pousse un jour à lui révéler son secret. Elle sent la présence des défunts et s'intéresse au spiritisme. Mais la grand-mère, effrayée par cette confidence, la trahit et en parle à son fils.
Le mois de mars est là et les premiers rayons de soleil pénètrent dans le spacieux salon. Le bois verni des meubles, les teintes vives des tapisseries, les dorures des tableaux semblent reprendre vie sous cette lumière douce et bienvenue. À Paris, la neige a presque fondu. On en trouve encore de petits tas sur les pelouses des parcs et le long des contre-allées. La ville semble allégée et les visages parisiens retrouvent la gaieté sous le ciel et les avenues dégagées. Même le père Cléry, traditionnellement solennel, affiche ce matin une humeur assouplie. Je souhaiterais profiter de ce temps ensoleillé pour nous rendre à Meudon. Je dois y récupérer des affaires. Qu'en dis-tu, Théophile ? Certes. Et toi, Eugénie ? Eugénie, surprise par cette interpellation cordiale, soulève la tête de sa tasse de café. La famille est réunie autour du petit déjeuner. Sa mère beurre une tartine en silence. Sa grand-mère boit un thé noir qu'elle accompagne d'un sablé. Son père déguste une omelette. Seul Théophile ne touche pas ce qui est servi à table. Il garde les yeux baissés vers sa tasse de café froid, les mains sur les cuisses et la mâchoire crispée. Derrière lui, la fenêtre laisse pénétrer un rayon de soleil qui empourpre ses boucles rousses. Eugénie interroge son père du regard. Ce n'est pas dans les habitudes du chef de maison d'inclure sa fille dans des activités extérieures, celle-ci étant réservée à Théophile. Pourtant, en bout de table, son père la regarde avec tranquillité. Peut-être que l'absence de conflit ces derniers temps a contribué à adoucir son humeur. Peut-être que, maintenant qu'il sent sa fille devenue docile, telle qu'il l'a toujours souhaité, il condescend à lui parler. Une promenade au grand air te fera le plus grand bien, Eugénie. En face, sa grand-mère l'encourage d'un hochement de tête. Son index et son pouce soulèvent l'anse de la tasse en porcelaine. La jeune femme avait prévu de retourner chez les maris Elle s'est décidée à leur demander s'ils ne cherchent pas quelqu'un pour ranger les livres dans la librairie, aider à la publication de la revue Spirit, même pour passer le balai, n'importe quoi, pourvu qu'on lui donne une issue de sortie. Son excursion devra attendre demain. Clairement, il ne lui est pas possible de refuser la proposition paternelle en expliquant qu'elle doit se rendre dans une librairie ésotérique. Avec plaisir, papa. Eugénie reprend une gorgée de café. L'humeur positive de son père la surprend et lui fait plaisir. Elle ne remarque pas, à droite, sa mère qui essuie du coin de sa serviette une larme qui coule sur sa joue.
En fait, de sortie au grand air, le père et Théophile déposent la jeune fille contre son gré à la salpêtrière. C'est Geneviève qui les accueille. Dans un bureau modeste, François Cléry, assis sur une chaise, signe des papiers à la plume. Sa haute forme est posée sur la table. Une unique fenêtre, condamnée depuis plusieurs années, laisse pénétrer la lumière du jour. Au creux du faisceau qui traverse la pièce, de la vitre au carrelage, de la poussière tourne sur elle-même. Des moutons blancs et gris se sont entassés sous le bureau et l'armoire ouverte d'où débordent des centaines de papiers et dossiers. Une odeur de bois pourri et d'humidité habite la pièce. Qu'attendez-vous que nous fassions pour votre fille ? Geneviève est assise face à lui. Elle observe l'homme qui fait aujourd'hui interner sa fille. François Cléry cesse d'écrire. Très sincèrement, je ne m'attends pas à ce qu'elle guérisse. Les idées mystiques ne se soignent pas. Votre fille a-t-elle déjà fait des crises ? Fièvre, évanouissement, contracture ? Non, elle est normale. Seulement, comme je vous l'ai dit, elle prétend voir des défunts depuis des années. Pensez-vous qu'elle dise vrai ? Ma fille a ses défauts, mais ce n'est pas une menteuse. Geneviève remarque que l'homme a la main moite. Il pose la plume sur la feuille, glisse son bras sous la table et essuie sa paume sur le tissu de son pantalon. Les boutons de son costume semblent le serrer. Sous sa moustache poivre et sel, ses lèvres tremblent. Il est rare pour ce notaire réputé et imperturbable d'avoir à faire un effort pour maintenir sa contenance. Les murs de cet hôpital déstabilisent quiconque y pénètre, à commencer par celui qui vient y placer sa fille ou son épouse ou bien sa mère. Geneviève ne compte plus les hommes qu'elle a vus s'asseoir sur cette chaise. Ouvriers, fleuristes, professeurs, pharmaciens, marchands, pères, frères, époux. Sans leur initiative, la salpêtrière ne serait sans doute pas aussi peuplée. Certes, certaines femmes en ont déjà amené d'autres, des belles-mères plus que des mères, parfois des tantes, mais la majorité des aliénées le furent par les hommes, ceux dont elles portaient le nom. C'est bien le sort le plus malheureux. Sans mari, sans père, plus aucun soutien n'existe, plus aucune considération n'est accordée à son existence. Ce qui surprend Geneviève dans ce cas particulier, c'est le milieu social de l'homme qui lui fait face. Habituellement, les bourgeois ont en horreur l'internement de leur épouse ou de leur fille. Non pas parce qu'ils ont un sens de l'éthique supérieure et qu'ils jugent immoral d'enfermer leur femme contre leur volonté, mais un internement qui s'ébruiterait dans les salons ternirait à jamais la réputation du patriarche. Dès la moindre manifestation de désordre mental sous les lustres en cristal, les bourgeoises sont rapidement soignées et conduites dans une chambre sous clé. Qu'un notaire vienne à la salpêtrière faire interner sa fille est une démarche atypique. Le père Cléry tend les papiers signés à Geneviève. Elle jette un coup d'œil au document, puis regarde l'homme. Puis-je vous poser une question ? Je vous en prie. Pourquoi faire interner votre fille si vous n'attendez pas qu'elle soit soignée ? Nous ne sommes pas une prison. Nous œuvrons à guérir nos patientes. Le notaire réfléchit. Il se lève de sa chaise et époussette son haute forme d'un geste résolu. On ne converse pas avec les morts sans que le diable y soit pour quelque chose. Je ne veux pas de cela dans ma maison. À mes yeux, ma fille n'existe plus. L'homme salue Geneviève et quitte la pièce.
L'intendante introduit la clé dans la serrure. Dans la petite chambre froide et obscure, Eugénie est assise sur une chaise, de dos, à côté du lit. Ses bras sont croisés sur la poitrine. Ses cheveux bruns et fins tombent le long de son dos. Elle fixe sans bouger un coin de la chambre. L'ouverture de la porte ne la perturbe pas. Geneviève observe un instant la nouvelle aliénée, incertaine de l'humeur de celle-ci, et s'avance pour déposer un plateau sur le lit, un bol de soupe et deux tranches de pain sec. « Voici ton déjeuner. Eugénie ?» Eugénie ne bouge pas. Geneviève hésite à l'approcher et juge plus prudent de retourner à la porte. « Tu restes dans la chambre pour cette nuit. Demain, tu iras prendre le petit déjeuner au réfectoire. Je suis Geneviève, c'est moi qui supervise ce secteur. » Eugénie se retourne au prénom de Geneviève. Elle observe l'intendante de ses grands yeux sombres et cernés, puis esquisse un sourire tranquille. « Vous êtes bien aimable, madame. Sais-tu pourquoi tu es ici ?» Eugénie fixe la femme au chignon blond qui n'ose pas trop s'éloigner de la porte. Elle réfléchit un instant, puis baisse le regard vers ses bottines. « Je n'en veux pas, ma grand-mère. Finalement, elle m'a libérée sans le vouloir. Je n'ai plus besoin de vivre dans le secret. Tout le monde sait qui je suis maintenant. » Geneviève garde la main sur la poignée en dévisageant la jeune femme. Elle n'a pas l'habitude d'entendre une aliénée parler de façon aussi articulée, aussi clairement. Sur la chaise, Eugénie garde les deux bras pliés sur sa poitrine, légèrement penchée en avant, comme si une soudaine fatigue la battait. Au bout d'un moment, la jeune femme lève de nouveau le visage vers Geneviève. « Je ne vais pas rester longtemps ici, vous savez. Ce n'est pas toi qui décides. Je sais. » C'est vous. Vous allez m'aider. Bien, nous viendrons te chercher demain. Elle s'appelle Blandine, votre sœur. Geneviève resserre sa main sur la poignée. Elle demeure interdite quelques secondes, puis reprend sa respiration qui lui a échappé un instant. Eugénie l'observe calmement. Le même sourire paisible persiste sur son visage fatigué. Geneviève se raidit face à cette folle. Eugénie, dans son habit propre et distingué, un habit de fille de bonne famille, lui fait soudain penser à une sorcière. Oui, cette brune aux cheveux longs est exactement ce que devaient être les sorcières d'autrefois. Charismatique et fascinante d'apparence. Vicieuse et dépravée de l'intérieur. Tais-toi, enfin! Elle est rousse, n'est-ce pas? Eugénie semble regarder autre chose dans la pièce obscure. Elle fixe un point juste derrière Geneviève. L'intendante sent son corps entier parcouru d'une décharge. Un tremblement saisit sa poitrine, comme si un coup de froid s'emparait d'elle. Et ce tremblement empire chaque seconde jusqu'à lui secouer tout le buste et les bras. Instinctivement, dans un effort qu'elle ne maîtrise pas, ses jambes tournent sur elles-mêmes et sortent de la pièce. Ses mains paniquées referment nerveusement la porte à clé, puis son corps recule de quelques pas dans le couloir vide avant de lâcher prise, et elle se laisse tomber en arrière sur le carrelage froid.
Elle ignore précisément combien de temps il lui a fallu pour relever son corps du carrelage. Tombée en arrière, elle a fixé la porte qu'elle venait de refermer avec des yeux frappés de stupeur et d'effroi. Derrière cette porte, quelque chose de sombre et d'inexplicable venait d'avoir lieu. Elle était incapable d'analyser clairement ce qui s'était passé. L'épouvante l'avait mise à terre et l'empêchait de réfléchir calmement. Seul le visage d'Eugénie lui revenait en mémoire. ce visage captivant qui ne laissait en rien soupçonner le vice qu'il semblait abriter. La nouvelle aliénée lui avait joué un tour habile et pervers, voilà. Elle avait voulu se moquer d'elle, tenter de la déstabiliser, même si l'intendante ignorait comment exactement elle avait mené sa supercherie. En ce sens, elle était plus dangereuse que les autres aliénées du secteur. Celle-ci n'était au fond que de pauvres folles, plus perturbées que foncièrement mauvaises. À l'inverse, Eugénie disposait d'un esprit habile et cynique. Ce mariage était dangereux. Geneviève avait finalement trouvé la force de se relever. D'un pas sonné, elle avait quitté l'enceinte de l'hôpital endormi. Encore vêtue de sa robe de service, Geneviève s'allonge sur son lit et recroqueville ses jambes. Son corps est lourd, ses pensées confuses. Elle a beau se rassurer, quelque chose d'inhabituel, de dense, a eu lieu dans cette chambre. Jamais une émotion ne l'a envahie de cette manière. Les rares fois où ce fut le cas, elle était au moins en mesure d'analyser ce ressenti. À la mort de sa sœur, puis de sa mère, elle était endeuillée. Lorsque cette aliénée en qui elle voyait sa sœur l'avait un jour étranglée, elle avait éprouvé un sentiment de trahison et de tristesse. Ce soir pourtant, elle peine à définir ce qu'elle ressent. Elle sait qu'elle étouffait dans la pièce, oui. Les propos d'Eugénie, qu'elle ne s'explique pas, étaient comme une porte ouverte vers un monde inconnu, inhabituel, dérangeant. Éduquée dans le raisonnement cartésien et la logique scientifique, Geneviève n'était pas prête à voir ce que « parler au défunt » voulait vraiment dire. Elle ne souhaite plus y penser, elle souhaite oublier ce soir. Il faut peu de temps pour qu'elle s'endorme. Elle n'a même pas pris la peine d'allumer le poêle pour réchauffer ses murs. La nuit est avancée lorsqu'elle se réveille brusquement. D'un mouvement instinctif, elle se redresse sur son lit et recule dos au mur. Son cœur semble sur le point de s'arrêter. Elle regarde autour d'elle, la pièce opaque. On lui a touché l'épaule. Une main s'est penchée et a touché son épaule. Elle en est certaine. Ses yeux s'habituent à l'obscurité et distinguent peu à peu les meubles, les ombres, le plafond. Il n'y a personne. La porte est fermée à clé. Pourtant, elle a senti. Elle porte la main à son visage, ferme les paupières et tente de maîtriser sa respiration. Au dehors, la ville est calme. Aucun bruit dans l'immeuble non plus. L'horloge indique 2h du matin. Elle descend de son lit, ramène un châle sur ses épaules, allume sa lampe à huile et s'assoit face à sa console. Elle saisit une feuille, trempe la pointe de la plume dans l'encrier et se met à écrire rapidement. Paris, le 5 mars 1885. Ma petite sœur, l'urgence me prend de t'écrire. Il est 2h du matin, je ne peux dormir. Disons que si, je dormais, mais j'ai été réveillée. J'aimerais penser qu'il s'agit d'un rêve, mais la sensation qui m'est arrivée était trop concrète pour être onirique. Tu dois te demander de quoi je parle. Je ne suis pas sûre de savoir comment t'expliquer ce que j'ai vécu aujourd'hui. L'heure est tardive et je suis encore trop troublée pour rassembler correctement mes pensées. Pardonne-moi si cette lettre te paraît confuse ou folle. Je tâcherai de te raconter plus en détail demain à tête reposée. Je t'embrasse affectueusement. Ta sœur qui chérit ta pensée.
Eugénie ne s'attendait pas à voir une entité apparaître si rapidement, surtout dans ce contexte. Elle était assise, dos au lit, lorsque Geneviève était entrée dans la pièce. Au moment même où celle-ci passa la porte, Eugénie avait senti qu'elle amenait avec elle quelqu'un. Une présence prononcée, qui avait pour intention de se faire voir et entendre. Eugénie n'avait pas eu d'autre choix que de laisser la fatigue mobiliser sa personne, même si elle ne se sentait pas la force, pas déjà, pas ici, dans cette chambre qui n'était pas la sienne, dans ce lieu qui la terrifiait déjà. C'est lorsque Geneviève s'était présentée qu'elle s'était résolue à lui faire face. Derrière l'intendante, dans l'obscurité, Blandine était là, debout. Jamais Eugénie n'avait vu un esprit aussi jeune. Avec ce visage lunaire et cette chevelure rousse, la défunte lui avait rappelé Théophile. Blandine ne dit rien d'abord, laissant Eugénie répondre à la question que lui avait posée Geneviève. Puis elle s'était exprimée. « Je suis sa sœur, Blandine. Dis-lui, elle t'aidera. » Eugénie, penchée en avant, écoutait la voix dans sa tête et voulait rire. Cette situation était absurde. Pas plus tard que ce matin, sa vie avait basculé entre le monde libre et l'enfermement. Elle venait de passer la journée entre des murs où pénétrait à peine la lumière du jour, entre des murs où son père avait décidé de la laisser le reste de sa vie. Et maintenant, elle recevait la visite d'une nouvelle entité qui promettait de l'aider. Oui, il y avait de quoi rire. Ça aurait été un rire nerveux, maniaque, rempli d'une émotion si débordante qu'il l'aurait définitivement fait sombrer dans la folie. Heureusement, elle ne se sentait pas la force de rire. Et elle se contenta de sourire. Elle ignorait si cette défunte apparaissait véritablement pour elle ou pour sa sœur, mais elle la sentait bienveillante. Surtout, elle n'avait rien à perdre. Elle ne pouvait pas tomber plus bas qu'ici. Alors elle parla. En une fraction de seconde, Geneviève se décomposa. Cela devait être beaucoup pour une femme que rien ne devait ébranler. Une femme qui avait vu tous les troubles, toutes les douleurs, tous les maux qui pouvaient exister chez les autres et qui ne l'avait jamais affectée car elle ne l'avait jamais autorisée. Puisque cette annonce semblait l'avoir profondément bousculée, puisque Eugénie était parvenue à toucher là où personne n'était allé, peut-être qu'il y avait là, en effet, une possibilité. Si incertaine fut-elle de rallier cette femme à sa cause. Car Eugénie n'avait pas d'autre idée en tête. Elle devait sortir d'ici, absolument. Le 5 mars 1885, le grincement de la serrure réveille Eugénie. Dans un sursaut, son corps se redresse au pied du lit et son regard parcourt la pièce. Le temps d'une seconde, elle avait oublié qu'elle était ici, dans cet hôpital pour folle. Une aliénée de plus parmi les autres, leurrée par sa famille. Traînée ici par la main qu'enfant elle embrassait avec crainte et respect. Elle tourne la tête vers la porte qui s'ouvre et une douleur lui saisit la nuque. Elle ramène sa main au-dessus de son épaule en grimaçant. Le lit austère, l'absence d'oreiller, la nuit agitée ont rendu son sommeil pénible et ses membres rigides. Une silhouette de femme apparaît dans l'encadrement de la porte. « Suis-moi. » n'est pas la même infirmière qu'hier. Sa voix est plus jeune, avec une autorité forcée dans le ton. Eugénie repense à Geneviève. L'allure austère de l'intendante lui a rappelé celle de son père. La même humeur contenue, la même maîtrise de soi. Ce qui les distingue, c'est que son père est sévère d'instinct. Geneviève, elle, l'est devenue. Sa personnalité rigoriste est le résultat d'un travail, non d'une nature. Eugénie l'a vu dans ses yeux. Elle l'a vu, d'autant plus lorsqu'elle a mentionné le nom de sa sœur. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la peine que son regard supportait. Dans ce roman de Victoria Mas, dont nous vous recommandons vivement la lecture, vous découvrirez d'autres figures de femmes attachantes. Il y a par exemple la jeune Louise, abusée par son oncle et fière que le professeur Charcot la distingue pour ses séances d'hypnose et qui est persuadée que le bel interne qui la poursuit de ses assiduités l'épousera après le bal ainsi qu'il lui a promis. Mais aussi la tricoteuse, ancienne prostituée, la sage Thérèse qui prodigue ses conseils à chacune et Augustine qui est parvenue à s'échapper. Ce roman dresse un panorama de pratiques psychiatriques au XIXe siècle. Nous laissons un court instant la parole à Victoria Mas qui l'exprime dans ce roman mieux que nous.
Le début du siècle laissa percer une lueur d'espoir. Des médecins un peu plus appliqués prirent en charge le service de celles qu'on ne se lassait pas de nommer les folles. Des avancées médicales émergèrent. La salpêtrière devint un lieu de soins et de travaux neurologiques. Une toute nouvelle catégorie d'internés se forma dans les différents secteurs de l'enceinte. On les nomma hystériques, épileptiques, mélancoliques, maniaques ou démentiels. Les chaînes et les haillons laissèrent place à l'expérimentation sur leur corps malade. Les compresseurs ovariens parvenaient à calmer les crises d'hystérie. L'introduction d'un fer chaud dans le vagin et l'utérus réduisait les symptômes cliniques. Les psychotropes, nitrite d'amyle, éther, chloroforme, calmaient les nerfs des filles. L'application de métaux divers, zinc et aimant sur les membres paralysés avait de réels effets bénéfiques. Et avec l'arrivée de Charcot au milieu du siècle, la pratique de l'hypnose devint la nouvelle tendance médicale. Les cours publics du vendredi volaient la vedette aux pièces de boulevard. Les internées étaient les nouvelles actrices de Paris. On citait les noms d'Augustine et de Blanche Whitman avec une curiosité parfois moqueuse, parfois charnelle. Car les folles pouvaient désormais susciter le désir. Leur attrait était paradoxal. Elles soulevaient les craintes et les fantasmes, l'horreur et la sensualité. Lorsque, sous hypnose, une aliénée plongeait en crise d'hystérie devant un auditoire muet, on avait parfois moins l'impression d'observer un dysfonctionnement nerveux qu'une danse érotique désespérée. Les folles n'effrayaient plus, elles fascinaient.
Cette émission a été préparée et lue par Marie et Anne. Nous remercions Yvan pour l'enregistrement et le montage. Les intermèdes musicaux que vous avez entendus sont extraits de « Je te veux » d'Éric Satie, interprété par Anne Kefelec, « Blues » par Alexandre Tarot, « Minstrel » et « La cathédrale engloutie » de Claude Debussy par François-Joël Thuillier.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G www.radio-g.fr.